Alors je vérifie si ça marche. Hop. C'est bon. La vie est faite d'épreuves. Et lorsque les difficultés, lorsque la maladie, lorsque le deuil nous touche, la Bible nous promet que Dieu est là, comme toujours. Mais qu'a fait Dieu? Qu'a-t-il fait exactement? C'est la question que les Hébreux se sont posée certainement pendant tout ce temps où ils étaient esclaves en Égypte. Avant que Dieu n'envoie Moïse, plusieurs générations ont subi l'oppression des Égyptiens. Le texte précise que Dieu a entendu leurs cris. Il n'est donc pas insensible. Au contraire, il leur envoie un homme au moment choisi. Il leur envoie Moïse pour être le porte-parole de Dieu qui va délivrer le peuple. Ce même peuple, au fil des siècles, connaîtra bien des difficultés internes, par exemple à cause de leurs fautes, leurs péchés, mais aussi des difficultés externes, notamment à cause de leurs ennemis. Dieu continuera d'envoyer des hommes et des femmes pour les ramener vers Dieu et pour les soulager de l'oppression ennemie. Mais après le prophète Malachie, Dieu est resté près de 4 siècles sans envoyer qui que ce soit. En tout cas, sans envoyer un prophète à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Pendant ces 4 siècles, le peuple était en position de faiblesse. Ils ont été dispersés et dominés par des empires, dont l'Empire romain. Ces 4 siècles sans intervention manifeste de Dieu nous rappellent les années où le peuple était esclave en Égypte. Tout à coup, après plusieurs générations, Dieu envoie enfin quelqu'un. Sous l'Empire romain, Dieu envoie le prophète Jean-Baptiste qui prépare la venue de Jésus. Et lorsque Jésus commence son ministère, le peuple était comme affamé, affamé de la parole de Dieu. Lorsque Jésus regardait la foule durant son ministère, il était triste. Les textes nous disent qu'il était triste, bouleversé, car c'est comme s'il voyait des brebis sans berger. Le peuple était dominé par les Romains et il était délaissé spirituellement par les responsables religieux. On sait aussi que parmi le peuple d'Israël, il y avait des malades, des infirmes, des lépreux et même des personnes possédées par des démons. C'est dans ce contexte que Jésus arrive. Un contexte où le peuple est fatigué et chargé. Jésus arrive au sein d'un peuple fatigué et chargé. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué et chargé, vous êtes dans la même situation que le peuple de Dieu. Alors peut-être pas pour les mêmes causes, mais nous sommes aussi dans un monde où nous vivons des difficultés, des épreuves. Qu'est-ce que Jésus apporte en venant dans ce monde? Quelle est la première chose que Jésus va faire au tout début de son ministère, c'est-à-dire au tout début de sa mission? Comment marque-t-il le début de sa mission? Eh bien, si l'on tient compte de ce qui est relaté dans l'Évangile selon Jean, la première chose que Jésus fait, c'est de changer de l'eau en vin pour une fête, et en l'occurrence pour un mariage. N'est-ce pas un peu étrange? La première impression n'est-elle pas importante? Jésus démarre sa mission au sein d'un peuple fatigué et chargé, et la première chose qu'il fait, c'est de changer de l'eau en vin pour une fête. Que veut-il nous faire comprendre? Se préoccuper de la quantité de vin à un mariage est-il plus important que de guérir des malades ou apporter un réconfort à ceux qui souffrent? Essayons de comprendre le message que Jésus nous communique lorsqu'il choisit de changer l'eau en vin en guise de premier miracle. Je vous invite à lire le texte en Jean 2, versets 1 à 11. Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ah oui, verset 6. « Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. » Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier point que j'aimerais relever, c'est que Jésus est le maître de la fête. Le texte précise bien que c'était le premier signe miraculeux de Jésus en Galilée. Un signe, c'est un symbole qui renvoie à autre chose. Et Jean, l'auteur, prend bien le soin de dire que c'est un signe. Et comme son nom l'indique, un signe a une signification. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Un signe a une signification. Et donc, quelle est la signification ? À quoi renvoie ce miracle ? Jésus n'était pas obligé d'exercer sa puissance dans cette situation, comme ailleurs non plus. Personne, en tout cas ici, n'était en danger. Pourquoi a-t-il choisi de manifester sa puissance divine pour la première fois durant un mariage, en changeant l'eau en vin ? Pour mieux comprendre ce récit, il faut savoir que le mariage était un moment très important dans la vie d'un couple, et pas seulement que du couple, mais leur famille aussi. Plus important que ce qu'il est aujourd'hui dans notre société qui prône l'indépendance. La société de l'époque mettait beaucoup d'accent sur la famille et sur la communauté. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont réussi dans la vie lorsqu'ils ont réalisé leurs rêves personnels, s'ils sont heureux. Par exemple, quelqu'un peut dire « J'ai un bon travail, j'ai une belle épargne pour ma retraite, j'ai fondé une famille, je peux dire que j'ai réussi dans la vie. » Dans la culture de l'époque de Jésus, on disait que l'on avait réussi dans la vie quand on arrivait à pourvoir aux besoins de sa famille et quand on avait une bonne réputation dans la communauté, c'est-à-dire dans le village. Quelqu'un pouvait dire qu'il avait réussi dans la vie s'il était un bon époux, si elle était une bonne épouse. Si quelqu'un pouvait dire « Je suis un bon fils, une bonne fille, un bon père, une bonne mère de famille. » C'était cela, réussir sa vie. Le but du mariage, ce n'était pas le bonheur de deux conjoints. Le but du mariage, c'était, et c'est, de fonder une famille pour la souder, pour contribuer à l'éducation de la génération suivante. Et c'est aussi lors du mariage que les deux époux devenaient adultes. Dans notre société, en tout cas en France, on devient adulte à l'âge de 18 ans. Dans la culture de Jésus, on devenait adulte quand on se mariait. Ainsi, la fête qui célébrait le mariage était très importante, car elle était l'union entre deux époux, mais aussi le passage à l'état adulte. Et la famille était plus impliquée qu'aujourd'hui, en tout cas plus impliquée au niveau du sens du mariage, du sens même du mariage, pas forcément dans l'organisation ou dans le financement de la fête, mais aussi dans l'implication familiale. Et tout ce que cela signifie. Tout le village était invité, devait être invité, parce que cette alliance entre deux personnes était une union publique qui se faisait devant la société et elle concernait toute la communauté, tout le lieu de vie. En plus, la fête durait une semaine et l'on devait faire honneur aux invités. Et c'est pour cela que le texte mentionne une quantité impressionnante d'eau transformée en vin. Au verset 6, on apprend qu'il s'agit de 6 jarres de 100 litres chacune, soit 600 litres de vin, à peu près. Hein. 600 litres de vin, c'est à peu près l'équivalent de 800 bouteilles de vin, parce que nos bouteilles à nous font 75 centilitres. Vous imaginez la pression et le travail pour les mariés, la famille des mariés aussi, et pour l'organisateur de la fête. Si dans une telle fête, on manquait de vin, c'était une catastrophe. C'était aussi la honte pour les familles des mariés et pour l'organisateur du mariage. Et on sait que l'honneur avait une place très importante. Il ne fallait pas, surtout pas, être en position de honte dans ce genre de situation. Quand Jésus intervient pour changer l'eau en vin, il demande aux serviteurs d'apporter le vin, non pas aux mariés, mais aux organisateurs, à l'organisateur de la fête, dont le rôle était de veiller à ce que tout se déroule bien et qu'il ne manque de rien. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il veut ainsi nous faire comprendre que c'est lui le véritable maître de la fête. C'est Jésus le véritable maître de la fête. Jésus est venu sur terre pour s'humilier, pour mourir sur la croix, pour ressusciter. Mais tout cela, c'est un moyen de parvenir à une fin, entre autres. Ce but, c'est la fête dans le ciel. La fête dans le ciel. La Bible parle du banquet final. Le but ultime de la venue sur Jésus sur terre, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est la fin de toute souffrance. C'est la joie parfaite. C'est cela que Jésus est venu apporter. Et le premier signe de Jésus renvoie à ce festin qu'il y aura dans le ciel. Entre-temps, il y aura des souffrances, il y aura des deuils, il y aura des larmes, il y aura de l'injustice. Mais en transformant l'eau en vin, Jésus nous fait savoir qu'il est le maître de la fête. Il est venu nous inviter à sa fête céleste. Il me semble que c'est le message que Jésus veut nous communiquer par ce signe miraculeux. Mais ce récit nous apprend encore autre chose. Jésus devait passer par la mort et la résurrection pour nous offrir la fête. Jésus est le maître de la fête, mais avant les festivités, il doit passer par la mort et la résurrection. Regardez bien le dialogue, ou écoutez bien le dialogue entre Marie et Jésus. Et ce dialogue paraît un peu énigmatique. Je vous relais les versets 3, 4 et 5. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Quel est le lien entre la remarque de Marie et la réponse de Jésus ? Marie dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répond, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Tout d'abord, il ne faut pas s'étonner que Jésus appelle sa mère femme. Pour nous, cela nous semble assez méprisant, peut-être, hein, certainement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je considère la chose. Imaginez que j'appelle mon épouse « Femme, viens ici ». Cela serait choquant. Mais à l'époque de Jésus, appeler sa mère « femme », c'était une marque de respect. C'était comme si Jésus disait « ma chère mère ». Il lui demande « ma chère mère, que me veux-tu ? » En fait, la question de Jésus, enfin la réponse qui est aussi une question de Jésus, est difficile à traduire. Littéralement, cela donne « quoi, toi et moi ?» On peut aussi traduire « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» ou bien « Toi, que me veux-tu ?» ou bien « En quoi cela nous concerne, toi et moi ?» ou encore « Pourquoi, toi, tu m'impliques, moi, dans cette affaire ?» En tout cas, j'ai l'impression que Jésus essaye de faire comprendre à sa mère qu'il veut prendre ses distances. Elle est sa mère terrestre et biologique, mais lui, il doit surtout obéir à Dieu, son Père céleste. Marie lui suggère de faire quelque chose pour aider les mariés à cause du manque de vin. Mais lui, il est sur terre pour une mission bien précise, plus grande, pour une mission plus grande, une mission que Dieu lui confie. Jésus dit dans le même verset 4 « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans l'évangile selon Jean, Jésus parle plusieurs fois de son heure. Il s'agit du moment où il va manifester pleinement sa gloire par sa mort et sa résurrection. Jésus va bien faire quelque chose. Il s'apprête à faire un miracle. Mais il fait comprendre à Marie qu'il ne le fait pas avant tout pour les mariés. Il le fait pour obéir à Dieu, pour signifier qu'il est le Seigneur d'une fête encore plus grande. Et quand il précise que son heure n'est pas encore venue, que ce n'est pas son heure, il fait comprendre à sa mère qu'il va bien y avoir un miracle. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il va manifester pleinement sa gloire. Jésus lui dit en quelque sorte, « Oui, tu vas voir un miracle dans quelques instants, mais mon heure n'est pas encore venue. » Cela signifie que tôt ou tard, Jésus va devoir souffrir pour que la fête puisse avoir lieu. Jésus choisit une fête pour marquer son ministère au sein d'un peuple fatigué et chargé. Ce n'est pas pour esquiver cette réalité, au contraire. Puisque le peuple est chargé et fatigué, Jésus leur donne un aperçu de ce qu'il va leur offrir afin de leur présenter l'espérance. Il donne un aperçu de l'espérance, de ce qu'ils connaîtront au ciel. Jésus connaît mieux que personne notre situation à chacun. Le Seigneur connaît nos épreuves, nos difficultés. Dans notre récit, Jésus commence à se révéler, à se faire connaître. Au début du culte, Aude et Florence ont rappelé que Dieu est un Dieu qui se révèle. Ici, il se révèle comme étant le maître de la fête à venir, celle qu'il prépare au ciel pour nous. Pour que cette fête puisse avoir lieu, Jésus accepte de mourir à notre place, et c'est ainsi que sa gloire va se manifester. Regardons maintenant la suite du dialogue. C'est mon troisième et dernier point. Jésus nous invite à lui faire confiance pour participer à sa fête. Regardons la suite du dialogue. Remarquez que Marie et les serviteurs ont dû écouter Jésus et lui faire confiance pour que le miracle puisse se réaliser. Je lis les versets 5 à 8. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Au verset 7, les serviteurs font exactement ce que Jésus demande. Il faut savoir que les jarres destinées à la purification étaient des objets saints. Elles servaient à effectuer des rites religieux, des rites juifs. C'était pour se laver avant de faire des sacrifices. Ce rite symbolisait que pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut être pur, être purifié. Ces jarres ne devaient donc pas servir à autre chose. C'était des objets saints. Quand Jésus leur a demandé de s'en servir, les serviteurs auraient dû refuser. Mais ils l'ont écouté. Ces jarres symbolisent l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la loi. Jésus les utilise pour y transformer l'eau en vin. Il nous fait comprendre que l'Ancienne Alliance laisse place à la grâce. la fête. L'ancienne alliance laisse place à la fête. Et pour entrer dans cette fête, ce ne sont pas les rites qui comptent, mais la confiance en Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, même si cela vous paraît insensé. Et la foi en Jésus, mort et ressuscité, est un message qui paraît insensé aux yeux du monde, comme l'apôtre Paul le souligne notamment. Mais par la foi, nous faisons confiance au Christ. Par la foi, nous croyons que notre vie ne se résume pas à ce qu'il y a sur terre. Par la foi, nous croyons que nous avons une place auprès du Père. En attendant, nous poursuivons notre route, peut-être en étant fatigués et chargés, mais avec la certitude que Jésus est passé par là et qu'il a souffert pour nous offrir le salut. Pour terminer, je propose simplement de revenir au parallèle qu'il y a entre le peuple d'Israël et nous, et entre Jésus, entre Moïse et Jésus. Alors que le peuple de Dieu était fatigué et chargé au temps du Pharaon, Dieu a envoyé Moïse pour le délivrer et pour l'amener vers une destination promise. Aujourd'hui, alors que dans ce monde, nous pouvons être fatigués et chargés, Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer de nos fautes et pour nous amener vers une destination promise. Il nous prépare une fête dans cette terre promise. Comme pour le peuple au temps de Moïse, nous sommes en route. Nous sommes appelés à lui faire confiance sur le chemin et à laisser Dieu être le guide en toutes circonstances. Soyons ouverts à sa parole, à son esprit qui nous guide, et ayons foi en lui en toutes circonstances, même si cela peut paraître insensé. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te remercier parce que tu ne laisses pas ton peuple seul, sans guide. Merci parce que au temps du Pharaon, tu as entendu les cris de ton peuple. Et malgré son imperfection, tu as appelé Moïse. Tu as appelé Moïse pour qu'il puisse guider ton peuple, l'amener vers la destination promise. Et merci parce que Moïse n'a été que le porte-parole. C'est toi qui a guidé le peuple. C'est toi qui l'a délivré. Et maintenant que ton peuple et l'Église est ton peuple, tu continues de nous guider. Tu as envoyé ton Fils Jésus. Et tu nous guides par ton esprit. Et tu nous promets toujours cette destination finale. Merci Seigneur parce que tu es le maître de la fête et tu nous offres cette espérance alors que dans ce monde, nous pouvons être fatigués et chargés. Tu viens nous dire que tu nous amènes vers cette espérance certaine. Merci pour la grâce que tu nous offres, le salut, la délivrance, la joie en toi. Merci pour tout ce que tu es et ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.